Le vocabulaire, oui, c'est l'ancien.
Okay.
Oui, c'était une époque où il y avait un vocabulaire comme il y avait le costume. Un médecin et un charbonnier, c'était pas
un des bons exemples. L'instituteur du début du siècle dernier aujourd'hui, si vous faites un enregistrement du cas, on est là.
Oui, puis c'est là qu'on voit aussi l'apparition de tous les termes venus de l'anglais via souvent le vocabulaire professionnel.
D'accord.
On parle de l'univers des startups, il y a plein de métiers qui sont aussi dont le vocabulaire est dérivé du terme anglais.
Mais ça relativise.
Et pourquoi avez-vous parlé de Chicoutimi tout à l'heure?
Parce que vous avez un petit accent. Oui. Ah,
pourquoi ça, pas Chicoutimi? Parce que j'ai été invité à l'inauguration par le maire de commémoration de la première maison de cette ville.
D'accord.
J'arrivais de Québec, premier forum mondial de langue française. Je suis venu avec plaisir. Je m'attendais à une vieille bâtisse.
C'est tout neuf, quoi.
1903.
Ouais.
Et quand on a posé la plaque, ça m'a un peu remué. Je me suis dit, c'est vrai, première maison.
Moi, je me rappelle d'une église où c'était écrit en gros, pour une église, c'était 50 ans, et puis c'était merveilleux, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Non, c'est justement, ça relativise aussi cette histoire de lien avec la langue, puisque nous, on est toujours, ce type d'expérience, ça fait longtemps, je pense que ça existe, chacun dans son coin. En fait, là, il lance ce projet, et c'est vrai que, par exemple, à Lyon, il y a un laboratoire de langage qui fait ça depuis des années. Comment faire en sorte qu'on se connaît, mais de tisser du lien, de faire... un essaimage de toutes ces procédures, de toutes ces expériences, pour faire comprendre que, encore une fois, c'est proposé à des gens qui vont étudier. Moi, je pense que ça serait bien aussi que ce type de projet soit connu du simple citoyen.
Ah oui, mais les gens qui parlent sont pas des gens qui étudient. Là, peut-être.
Ah, si, je pense qu'on étudie tout au long de sa vie, moi.
Ah, oui, ça c'est sûr. Oui, on est tous des étudiants éternels.
Voilà.
Je suis d'accord.
Oui, mais justement...
je veux dire, les gens qui parlent viennent de toutes les. Ils cherchent des gens de partout.
Oui, je crois que c'est un projet d'itinérance, en fait.
Oui,
la forme étonnante de ce labo. C'est un lieu qui doit pouvoir circuler partout et s'arrêter sur les places publiques,
devant
les écoles. Mais oui,
oui, voilà. Et c'est pour ça que c'est un camion et que c'est facile comme ça d'aller dans la brousse.
Et des artistes. Il y en a un qui est associé d'ailleurs au projet. Ça peut être un lieu laboratoire pour les artistes.
Le crieur public, par exemple, c'est quelque chose en France qui a marqué bon nombre de générations. Aujourd'hui, je pense que ça serait une bonne idée d'associer ce type de camion, un crieur public qui vient et qui fait le même process, mais avec le langage d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Ça serait intéressant.
Oui, c'est intéressant. Un bon inventeur.
Oui, mais en utilisant le langage d'aujourd'hui, c'est bien qu'effectivement, ça pourrait être intéressant de voir de communiquer avec la langue qu'on utilise, la jeunesse utilise aujourd'hui. Mm-hmm. Peut encore interpeller les gens dans la rue. C'est pas gagné.
Non. Hey, toi là-bas, viens par ici.
Mais je pense que c'est un peu gagné parce que les gens, ils sont quand même curieux, quoi. Tu vois, quand il se passe quelque chose.
Peut-être pas ça dans les centres-villes.
Pas forcément Paris ou des grosses villes.
Les gens, quand ils marchent, ils ont un espèce.
Dans les grosses villes, mais pas dans les.
Sur des abords de médiathèques, dans des.
Ah oui.
Dans des villages.
Dans des
en
marchés.
Lien avec des agglomérations et tout, effectivement, ça peut être. Après, moi je trouve que ce qui est hyper intéressant dans ce projet-là, c'est que justement la première interface est artistique. Donc elle est au-delà, on parle du matériel de recherche qui est collecté dans le camion, mais il y a toute l'interface vers un public qui est une interface esthétique pour venir chercher justement, avant même ce crieur, avant même. L'idée, c'est d'être interpellé par quelque chose de visuel et ensuite, parce que c'est pas de la vulgarisation du coup, parce que le projet est quand même assez complexe, etc. Mais on est quand même sur quelque chose de l'ordre de l'aller vers, quoi. On n'est pas sur quelque chose, justement, un peu un entre-soi scientifique où il n'y aurait que des sociologues, etc. Non, on est vraiment sur une interaction entre le tout venant. Alors oui, on apprend toute sa vie, malgré tout. On est plus ou moins enclin à participer à ce genre de projets qui peuvent avoir l'air peut-être parfois un peu austère ou assez peu accessible. Et je trouve que le fait qu'il y ait une perméabilité entre l'art et la recherche est hyper intéressant. Et que
qu'ici, ça se... Surtout dans un lieu public aussi, mmh. comme ça. Mmh.
Mmh. Moi, je prenais cet exemple parce que je compare souvent les rapports aux langues. Et c'est vrai que, par exemple, en langue anglaise, vous allez à Hyde Park, les gens, ils se lèvent sur les valises, ils interpellent les gens, ils continuent à faire ça. Chez nous, c'est beaucoup moins vrai. Vous allez dans les pays hispanophones, c'est pareil, on dépanne, les gens n'hésitent pas à prendre la parole, ça, et dans les pays d'Amérique latine aussi. Et donc, du coup, on voit bien que nous, on a un rapport à cette langue qui est resté quand même figé à une certaine façon de faire. Donc, moi, je trouve le projet super intéressant. Moi, j'ai monté un projet qui s'appelle La Caravane. Donc, moi, je suis pour
la mobilité itinérante.
Je suis entièrement pour ça. Après, je pense que c'est vrai que le lien avec ceux que je fréquente, c'est-à-dire mon boucher, tous ces gens communs, quoi, ben, il faut le toucher. Alors, évidemment, l'esthétique, je comprends, c'est super. Hein, mais l'art, enfin, je suis aussi directeur d'un théâtre, metteur en scène, entre nous, hein. Touche quand même que très peu de gens sur cette. Malheureusement. Hein. Je veux dire, dans un stade de foot, il y a beaucoup plus de monde que dans un théâtre. Hein. Mmh. Et, du coup, c'est comment faire en sorte que le public soit sensible à ce dont on est en train de parler en petit comité, parce que c'est lui qui fait vivre cette langue. Hein. C'est lui qui fait l'évolution irrémédiable. Hein. Je veux dire, cette évolution, elle est là, elle est constante. Et elle continuera à évoluer, quoi qu'on fasse. J'étais tout à l'heure avec l'académicien de la personne. C'est-à-dire, l'évolution de la langue qu'on parle, elle vient de la rue. Si quelque chose vient dans les réseaux sociaux, demain, un journaliste va le dire à la télévision. Mais ça passe dans le champ des habitudes. Ça, c'est une question que je me pose, c'est comment faire en sorte que le citoyen, la jeunesse, qui est branchée là-dessus 24h sur 24, comment les rendre sensibles à cette cause, à ce fait de cette évolution dont ils font partie et ils ne s'en rendent pas compte. Mais comment, parce qu'en France, c'est vrai que la langue française est un...
C'est quelque chose
d'un
peu sacré,
c'est
quoi.
C'est un champ, c'est compliqué. Parce qu'on parle de quelle langue en plus. C'est vrai que ce matin, je voulais une bouquette de maison j'ai entendu le grand bassin parler plusieurs fois de défense de la langue française. Vous n'entendrez jamais ça en Espagne, vraiment. Jamais en Espagne, je défends la langue française.
Bah, regarde tous les débats sur l'écriture inclusive ou épicène, ça crée des émules comme sur. Il y a une vraie défense, il y a vraiment quelque chose de l'ordre un peu. Je dirais pas archaïque, mais en tout cas quelque chose de très gardons ce trésor inestimable, et on sait pas vraiment d'où ça vient. Mais enfin, on sait d'où ça vient, mais on sait pas comment c'est possible que c'est traversé aussi longtemps les âges sans être du tout remis à un moment un peu en question, en ayant trouvé un peu de, je veux dire, frivolité, mais c'est pas le terme, mais en tout cas de légèreté dans toutes ces. Dans ce langage,
les tenants d'une autre approche, beaucoup plus vivante, contemporaine, intégrée de la langue. Mais peut-être qu'ils savent moins se faire entendre. Mais enfin, il y a des projets qui vont arriver qui vont montrer ça. La langue est vivante, et qu'elle est toujours en lien avec d'autres langues. Et que c'est ça qui fait sa richesse et sa vitalité. Et c'est vrai qu'on entend peut-être plus souvent ces voix un peu conservatrices, quand même, il faut le dire.
Ouais.
Surtout
c'est vrai qu'on les entend
plus. Oui, mais on les entend deux personnes qui parlent comme ça, tandis que c'est justement, ça peut être un camion, le camion il peut s'arrêter dans un parking où les gens ils parlent pas de défense de la langue française, et ils vont parler, c'est tout.
ça va être leur manière sur le parking d'une grande surface, où il y a la population qui me semble intéressante parce que c'est là où il y avait eu l'histoire du dictionnaire des banlieues. Moi j'avais trouvé ça formidable parce que là c'est expliqué comment ces mots sont venus, pourquoi, comment ils ont été construits. Et je pense que c'est important de donner la place à toutes ces variations de langage.
C'est pour ça que c'est bien que ce soit...
On écoute cette dame de
96 ans.
Bien sûr, il y a l'accent, mais aussi le contenu de ce qu'elle dit, qui fait qu'on va tout de suite repérer une région. Et on verra aussi qu'il y a des gens qui ont cet accent avec soi, et qui ne sont pas du tout avec soi, qui prennent l'accent. Donc, quelqu'un qui va au Québec, au bout d'un moment, quand il revient, il va dire, pas que t'as un petit accent. Voilà. Celui-là, il est accepté, d'autres, c'est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette transformation-là que je trouve aussi très intéressante. Dans cette histoire d'un camion qui se balade en France et qui donne cette impression que la France est un pays vraiment. Il y a rien qui monde. Il parle du temps maintenant, il parle plusieurs langues.
Moi, je suis moins d'accord avec vous, hein, avec celui, parce que vous faites, on parle la langue du maître, c'est-à-dire non pas la langue de ses parents, de ses amis, de son village. On parle maintenant la langue de la télévision, de la radio, on parle la langue de tout. Maintenant, il y a beaucoup moins d'accents, il me semble, quand je suis dans la rue. Il y a des accents, mais il y a beaucoup moins d'accents. Les accents sont unifiés par les réseaux sociaux, par tous les médias. C'est-à-dire, quand on regarde la télévision 3, 4 heures, 5 heures par jour, on a une langue qui n'est pas forcément la langue de soi. Quand je dis de soi, c'est de sa culture, de son milieu social. Maintenant, on a une sorte de langue unifiée par les médias, il me semble. Oui, moi je pense que tout le monde parle ici. Bon, vous me disiez que vous étiez lyonnais, mais je n'entends pas votre accent lyonnais. Ah bah, moi, je n'entends pas l'accent lyonnais que je connaissais quand je regardais un film de.
Bah, si vous prenez celui de. Je ne sais pas quel est le prince, mais non, oui. Ce que je veux dire, c'est que même les accents évoluent dans la façon dont on vit sa ville. Avant, quelqu'un qui est resté à Lyon, 50 ans, et vraiment. Voilà.
Oui, très bon.
Et aujourd'hui, on voyage. Bon, après, vous parlez à quelqu'un qui a voyagé. C'est un bon exemple. Et si je suis avec des données, vous verrez que ça revient facilement. Oui, c'est à l'intérieur.
Ah,
et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Hein. Quelqu'un qui a voyagé, quand il revient, il
revient. Il est réactivé.
Moi j'ai beaucoup de copains sénégalais, quand ils sont en France, quand ils reviennent au Sénégal, ils reviennent sénégalais. Il est vraiment dans le. C'est pas oublié. C'est ce que vous avez envie.
Mais là, oui, bien sûr, quand on parle du Sénégal, c'est très, très tranché. L'accent, mais prend les accents parisiens, il y en a.
C'est même le vocabulaire, je pense,
par monsieur. Non, c'est la branche.
Mais même des journalistes connus, vous les regardez, je crois comment il s'appelle, celui qui est franco-grec, je l'aime bien parce qu'il parle très bien de cette capacité qu'il a passée une année. Voilà, Nikos. Donc, bah, lui, par exemple, quand il retourne à son village en Grèce, il retrouve tout de suite l'accent. Enfin, je veux dire, le cadre est très important. Vous êtes dans le midi, vous êtes quelqu'un qui est né dans le midi, vous êtes à Paris, bah, vous faites attention, enfin, vous un peu. Il arrive dans le sud, on parle de ça,
oui, bon,
tellement de plaisir.
Oui. C'est-à-dire qu'il y aurait une double langue, quoi.
Ah, évidemment.
Oui.
Bah, comme ça.
Mais souvent, la langue est lissée par le. Je pense qu'on est pas. Les accents sont lissés dans ce qu'on entend, de par ce qu'on voit, de par ce qu'on regarde.
Moi, j'aurais presque le contraire de ce que tu dis. Ben oui, parce qu'avant, justement, il y avait la langue radiophonique ou bien la langue
écrite.
Tandis que là, maintenant, je trouve que les gens se permettent beaucoup plus d'avoir leur propre accent. Je dirais.
Et même dans l'écriture.
Quand on se plus
libre,
avant c'était vraiment pour
on écrit comme on parle.
Les gens qui parlent. On voit bien quand on écoute la radio, on reconnaît au bout de 30 secondes à peu près si on est sur France Culture, si on est sur France Inter ou bien tout d'un coup RTL. Ou, tu vois, c'est plus du tout la même. Je crois que les gens.
Vous laissez, c'est volontaire. C'est
moins envie de se dire. Si je monte à Paris, ou si je descends, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils n'ont plus l'idée qu'il va falloir transformer.
Ah, moi je pense à l'inverse, que sur les radios, par exemple, on adopte un ton, on doit suivre un ton, on apprend. On apprend à parler à France Culture, on apprend à parler à France Inter. Je pense que ce n'est pas naturel. C'est fait partie de mon travail.